Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Max Frisch, 1911-1991. Une vie, une œuvre, pour ses rediffusions, a décidé de jouer au jeu des pères, père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi, sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec Ingeborg Bachmann. Alors aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était architecte et écrivain, de celui qui a été son amant, et de celui qui était ironique et engagé, Max Frisch. D'abord, ce qui crève les yeux sur les photos, ce sont ses énormes lunettes cerclées de noir, de grosses montures à la Duras, surmontées d'épais sourcils sombres, qui lui font comme un regard de hibou. La plupart du temps, il pose devant des bibliothèques ou à son bureau, sa pipe à la main, mais parfois il est dehors, en manteau, moins formel et plus décontracté, appuyé à un réverbère ou en train de jouer à la pétanque. Il a l'air doux et souvent surpris, on l'imagine attentif et accessible. Il a l'allure d'un promeneur, comme s'il était toujours de passage, et on le voit souvent rire. Plus jeune, il est plus mince, et il ne porte pas toujours ses lunettes, peut-être par coquetterie. Alors on cherche des photos où ils poseraient ensemble, Ingeborg Bachmann et lui, et on n'en trouve pas. Et on se dit que peut-être, finalement, c'est elle qui parfois tient l'appareil. Mais en attendant, il faut écouter ce documentaire d'Isabelle Rabineau, réalisé par Ghislaine David.
Une vie, une œuvre, Max Frisch, 1911-1989. J'adore ce qui me brûle. Une émission proposée par Isabelle Rabineau. Cette année-là, en 1997, l'été suisse était brûlant. 8 ans après la mort du dramaturge, écrivain, autobiographe Max Frisch, un ouvrage donnait de sa jeunesse une version brune, en harmonie avec certaines priorités de l'idéologie nationale-socialiste, notamment l'antisémitisme. Cet été-là, au cœur nucléaire du pays, les coffres des banques suisses volèrent en éclats, sous la poussée de leur fantomatique détenteur, mort 50 ans plus tôt, à Auschwitz. Curieux été pour un lecteur, feuilletant les journaux, les pièces de théâtre de Max Frisch, l'auteur du fameux roman Stiller, Je ne suis pas Stiller. En effet, qui est et qui n'est pas Max Frisch? Un auteur adorant ce qui le brûle, et tout ce qui s'énonçant négativement éclate au grand jour, par contraste. Un cinéaste documentariste, Richard Dindo, était allé sur ses traces au début des années 80. Nous lui emboîtâmes le pas, écoutant à ses côtés le film des disparitions successives de Frisch. Puis, parmi tous les Max Frisch, nous prîmes le parti d'en choisir un, qui sera notre guide. Peu sorti de son bureau modeste, depuis le succès du romancier, c'est l'architecte Max Frisch, celui qui dessine les plans, celui qui creuse les fondations, celui qui élabore les volumes d'une œuvre à venir. Au centre du paysage, donc, un architecte suisse, Philippe Ramm, venu de Lausanne, se placera en face de l'architecte Max Frisch. Mais tout d'abord, une trace imaginaire, filmée par Richard Dindo, lisant Max Frisch et citant l'un de ses plus beaux livres, Montauk. Une piste, pour l'instant, Max Frisch adorait le ping-pong.
Ce sont les images qui me poussent à écrire, et aussi des mots isolés, mais surtout les images, les situations. Je voudrais pouvoir raconter tout ce que je vois. Je suis né à Zurich en 1911. Ma mère avait travaillé en Russie tsariste pour voir du pays. Elle nous en parlait souvent. Mon père était architecte. Fils de cellier, il n'avait pas pu s'offrir une école spécialisée et naturellement mettait son point d'honneur à ce que ses fils fassent des études universitaires. J'avais 22 ans quand notre père mourut et il me fallut songer à gagner ma vie. Journaliste, je décrivais ce qu'on m'indiquait. Les championnats du monde de hockey sur glace avaient lieu à Prague. Je m'y présentais comme reporter. Plus tard, ce fut la mer Noire, dont ma mère avait si souvent parlé, Constantinople, où je connus les mosquées et la faim. Enfin, l'Acropole et la marche à pied à travers la Grèce. C'était une époque comblée et heureuse, bien qu'assombrie par la mort subite d'une jeune femme. Le résultat fut un premier roman trop juvénile. C'est à cette époque que je lus Henri Levert, un livre qui à chaque page me sidérait comme s'il avait eu le don de seconde vue. C'était bien sûr le meilleur père imaginable. Un beau jour, je fis un ballot de tout ce que j'avais écrit, y compris mon journal, et je livrai le tout aux flammes. J'ai dû faire deux fois le chemin jusqu'à la forêt tant il y avait de liasses. Pendant deux ans, je n'ai pour ainsi dire pas transgressé le vœu que j'avais fait de ne plus écrire. Je recommençais à tenir mon journal seulement le jour de la mobilisation, lorsque je fus appelé sous les drapeaux comme canonnier, convaincu que la guerre ne nous serait pas épargnée et que nous n'en réchapperions pas. Puis ce fut un roman, J'adore ce qui me brûle, en 1943. Parmi les rares échos, il y avait quelques lignes du directeur du théâtre de Zurich, Kurt Hirschfeld, qui m'encourageait à tenter une pièce de théâtre.
Questionnaire. Question 1. Êtes-vous certain que la conservation de l'espèce humaine, une fois disparues toutes vos connaissances et vous-même, vous intéresse réellement ? Question 2. Pourquoi ? Réponse en style télégraphique. Question 25. Préféreriez-vous être mort ou vivre encore un temps en animal bien portant ? Et lequel ? Question. Stiller jouait-il au ping-pong avec Je ne suis pas Stiller ? Au téléphone, Richard Dindo et Philippe Velnitz.
Si vous voulez, Max Frisch, pour moi, était toujours un mythe. Dès mon adolescence, je n'avais qu'un rêve, c'était de le rencontrer un jour. Et à Zurich, de temps en temps, je l'ai vu comme ça dans les rues, passer ici ou là. Et dès que je suis devenu cinéaste, je n'avais qu'un rêve, c'était de faire un film sur lui un jour. Et aussi pour le rencontrer, pour le connaître. C'était, si vous voulez, pour beaucoup de gens suisses de ma génération, une espèce de figure intellectuellement parlée, paternelle. Figure de père, autant plus que j'ai pas eu de père. Et donc, j'ai toujours rêvé de faire un film sur lui un jour, dans lequel je raconterai sa vie à travers ses livres. Et j'ai toujours cherché à comprendre comment il a transformé sa vie en littérature, et de chercher un peu sa vraie vie dans les phrases et dans la fiction. Et un jour, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Montauk, ou Montauk, qui a été traduit comme tous les autres en français, dans lequel il raconte un voyage aux États-Unis, et une rencontre avec une jeune femme, et un livre dans lequel il dit « Maintenant, j'aimerais pour une fois raconter ma vraie vie. » Et immédiatement, j'ai senti que voilà, il a écrit le livre dont j'ai rêvé et qui pourrait me servir comme scénario de mon projet de film. Comprenez ?
Montauk Beach. Happy, c'est le mot exact. Fun. De voir ce qui est à voir. Lorsque son fils eut 55 ans, sa mère lui dit, non sans sévérité, « Tu ne devrais pas toujours écrire sur les femmes, tu ne les comprends pas. »
Aussi Richard Dindo, je crois que lorsque vous lisiez Max Frisch, avant de le rencontrer, vous aviez l'impression de voir des images, que c'est un écrivain qui écrit en images, qui écrit en observant très exactement.
C'est un homme de regard, un homme qui décrit des images. Et j'ai souvent, en tant que documentariste, travaillé sur des livres qui justement, paradoxalement, au-delà de la beauté de leur langage, m'inspirent des images. J'ai toujours cherché des images dans les textes. Et de travailler en tant que cinéaste sur un rapport entre le texte et l'image. L'image que je rêve à partir de l'écriture. C'est-à-dire, je travaille ce que j'appelle la matière autobiographique de mon personnage. C'est-à-dire, chez moi, c'est toujours l'autre qui parle. C'est l'autre qui s'exprime, c'est l'autre qui regarde et qui crée une œuvre, souvent poétique. Et mon cinéma est une lecture de cette matière autobiographique, de cette œuvre, vie, cette œuvre poétique. Et j'essaie de transformer en film documentaire l'œuvre autobiographique de mon personnage. Je pars toujours de sa propre description du monde.
On a déjà vu plus grandiose comme paysage. Il essaye tout de même avec sa caméra Microflex 200. Dans le viseur, des rochers avec buissons arides, le ciel. Au loin, un phare mastoc, zoom. Ça ne donne rien non plus. Le phare encore un peu plus mastoc. Inutile de laisser ronronner la caméra. Il est bientôt midi.
Richard Dindo, comment Max Frisch a accepté d'abord de tourner dans ce film qui lui était destiné, puis ensuite a préféré que vous alliez voir là où il avait été, notamment à Long Island, dans cet hôtel où vous avez suivi ses traces, mais sans qu'il apparaisse lui-même dans le film.
Si vous voulez, ce qui était amusant dans le film, c'est que lui-même était toujours vivant, mais je ne l'ai jamais filmé. C'est-à-dire, je n'ai jamais tourné des images avec lui. Je me suis uniquement servi de ses textes et de documents existants. Un film qu'il a tourné lui-même sur la jeune femme dont il parle, un film amateur en Ivit, et puis des entretiens qu'il avait donnés à des télévisions allemandes ou autres. Moi-même, je ne l'ai jamais filmé. C'est-à-dire, j'ai voulu garder la distance, parce que mon cinéma est fait d'une dialectique entre l'émotion que je ressens pour mon personnage, une espèce d'amour filial dans le cas de Frisch, et en même temps, de la distance. Mon cinéma est fait aussi de cette dialectique-là. Une dialectique aussi entre le présent et le passé, entre le documentaire et la fiction, entre le vrai et l'imaginaire.
Une après-midi longue et légère. Happy, c'est le mot. Il est content que Lynn soit là. Ce serait vide sans la jeune étrangère. La mer et le terrain avec les dunes et le vent. Il ne pourrait pas rester assis là, il faudrait qu'il s'en aille. Sans but. Ce serait du sable, comme à Silt, 1949. Et le bleu de la mer, comme à Sperlanga, 1962. Et le souvenir. Jusqu'à quel âge aimeriez-vous vivre? Vous aimez quelqu'un? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Question 25. Qu'est-ce qui vous fait penser que des animaux comme des gazelles, des hippopotames, des ours, qui grandissent derrière des barreaux, ne ressentent pas le zoo comme leur pays? Remarque, acuité du regard, rapidité exemplaire, connaissance de l'espace, autant de qualités requises pour bien jouer au ping-pong. Lionel Richard.
Je trouve que justement, il arrive à tirer des paysages à travers les images. Tout ce que a pu être l'univers de Max Frisch, l'univers fragile des relations de Max Frisch. Et il y a vraiment des moments très très émouvants dans ces images de Richard Dindo. Je crois que finalement, c'est l'essentiel qu'il a tiré, parce que l'œuvre, même si elle est biographique de Max Frisch, au fond, c'est un certain nombre de thèmes qui la traversent et qui nous sollicitent tous, c'est-à-dire la fragilité, la vieillesse, le déphasage qu'il y a à un certain moment entre ce qu'on est et puis le monde qui évolue, et puis cette impossibilité de comprendre cette évolution. Et la difficulté qu'il y a aussi pour les êtres à se rencontrer, à véritablement s'entendre, finalement, peut-être que chaque être est dans la solitude, et je crois que c'est ce qui ressort surtout du film de Richard Lindau.
Montauk, un nom indien. Il désigne la pointe nord de Long Island, à 110 miles de Manhattan. Et il pourrait aussi dire la date, 11 mai 1974. Lynn connaît cet hôtel qui est tout en bois depuis une excursion de l'entreprise, un hôtel dans les dunes. Lui s'est chargé de la carte, Lynn de tout le reste. Réservation avec acompte par mandat télégraphique. Elle désire ne pas être à ses côtés lorsqu'il l'inscrit, sous son nom à lui, dans le registre de l'hôtel. Rien ne s'y oppose. Une chambre avec loggia est vue sur le ressac tout proche. Deux lits séparés par une petite table avec lampe. Ils vont tout de suite sur la loggia. Il y a aussi une table de ping-pong.
That's why it was busy so long. There's something wrong with the prongs and it won't get off busy. I believe he's trying to call me though, because I just gave him the message.
Right.
Moi, ce qui m'intéresse dans Max Frisch, c'est que c'est une littérature du moi. C'est une littérature de l'identité. C'est le journal. Je crois que l'art de Max Frisch, c'est de mêler les notes les plus quotidiennes à des problèmes philosophiques. En définitive, quand on lit, par exemple, je ne suis pas Stiller, que je considère justement comme un grand roman. Ce sont des notes d'un prisonnier, des cahiers de prison. Un personnage qui est arrêté dans un train, qui nie qu'il est suisse, qu'il soit suisse, qu'il s'appelle Stiller, et qui se fait passer donc pour un Américain d'origine allemande, James White. La manière dont c'est construit, exactement comme un journal, on lui dit, vous devriez faire votre journal pour convaincre le tribunal que vous n'êtes pas Anatole Stiller. Et le problème, justement, c'est que dans toute la lecture, on se demande véritablement s'il est Stiller ou s'il n'est pas Stiller. Je crois que c'est l'art de Max Frisch de nous faire douter nous-mêmes de l'identité de ce personnage. Et je crois que toute son œuvre, c'est ainsi, c'est de nous faire douter non seulement de l'identité des personnages qu'il est en train de mettre en évidence, mais de nous faire douter de notre propre identité. C'est évident qu'il n'est pas Stiller comme personne n'est ce qu'il pense être de lui-même. C'est farci d'histoire. Et je pense que, aussi, c'est très caractéristique de la méthode de Max Frisch. L'histoire intervient constamment, le conte. Pourquoi ? Parce qu'il pense que, finalement, on n'est jamais autant soi-même qu'à l'intérieur de ce qu'on raconte, qu'à l'intérieur de la littérature. La littérature a été pour lui une méthode d'investigation de soi, et peut-être aussi parce que dans sa vie, il n'a pas eu évidemment toutes les satisfactions possibles et qu'il a cherché à s'analyser. Il y a tout le problème de la culpabilité qui passe aussi évidemment dans son œuvre et qui passe dans sa vie
et les deux se rejoignent
dans la Suisse. Hein. Tout Suisse qui a vécu cette époque et qui s'est mis à penser se ressent un peu coupable. Est-ce qu'un petit pays, disait Ramu, peut avoir de grandes ambitions ? Est-ce qu'un petit pays peut se révéler par de grands actes intellectuels ? C'est le problème, il n'y avait pas du tout de stimulant à l'intérieur de cette Suisse pour que ces jeunes puissent véritablement trouver leur chemin.
Est-ce qu'un pays qui n'a pas de projet peut avoir une histoire ? Demande Max Frisch.
Oui, c'est ça, exactement. Malheureusement, de cette manière-là, ça a conduit à plutôt à effacer l'histoire.
Amagansett, tel est le nom de la petite localité où il a décidé hier de raconter ce week-end de manière autobiographique, oui, autobiographique. Sans inventer de personnages, sans inventer des événements qui seraient plus exemplaires que la réalité. Sans se réfugier dans des inventions, sans justifier le fait qu'il écrive par l'idée de responsabilité à l'égard de la société, sans message. De plus en plus souvent, des souvenirs m'effraient, ce sont la plupart du temps des souvenirs qui n'ont rien d'effrayant. Ce qui m'effraie, c'est de découvrir que j'ai passé ma vie sous silence. J'ai alimenté le public en histoire. Dans ces histoires, je me suis dévoilé, je sais, jusqu'à en être méconnaissable. Je ne vis pas avec mon histoire à moi, uniquement avec des fragments de celle-ci que j'ai pu mettre en littérature. Des pans entiers manquent, le père, le frère, la sœur.
Liste des gratitudes. A. Ma mère. B. Le fait que j'ai rencontré très tôt une personne juive, une personne très germano-juive. C. La mort précoce de mon père. L. Toutes les femmes, oui, à vrai dire toutes. O. D'avoir exercé un temps durant le travail d'architecte. Z. Le ping-pong. On dit toujours « je ne suis pas Stieler », mais le titre, c'est quand même Stieler.
Oui, oui, c'est Stieler.
Mais c'est très étonnant parce qu'en fait, tous les personnages qui entourent Stieler, sa femme, sa maîtresse, les gens qui l'ont connu auparavant, bah, ils le reconnaissent, à moins qu'il se soit fait une opération.
Non, mais...
C'est lui.
Non,
mais on vient à douter, c'est-à-dire qu'on doute du monde entier. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est presque quelque chose de très enfantin qui voudrait dire que le monde qui nous environne est un monde de carton.
Non, ça veut dire que ce personnage est capable d'effacer complètement son propre passé et donc de se désaliéner. Finalement, c'est tout le problème de l'aliénation. Il est devenu quelqu'un qu'il n'était pas véritablement et il a décidé de faire une croix sur ce qu'il était. Et au fond, c'est devenu psychiquement si fort qu'il en arrive à nier psychiquement tous les personnages qu'il peut rencontrer. C'est pour cette raison que quand on le lit, quand on lit ses notes des cahiers de prison, eh bien, sa femme, sa propre femme, il ne la reconnaît pas véritablement. Ses anciens amis, il ne les reconnaît pas.
Son atelier, ses sculptures, il ne les reconnaît pas.
Il ne les reconnaît pas. Seulement, effectivement, il relate ce que l'on raconte de lui et qu'en même temps, il voudrait oublier.
Et il observe que ce qu'on lui dit correspond bien à ce qu'on lui avait déjà dit une autre fois.
Voilà.
Et que ça recoupe exactement.
Et c'est, et c'est seulement à la fin du roman, aussi bien à travers les dernières pages des cahiers de prison et surtout à travers le constat du procureur, dernière page du roman Constat du procureur, qu'on s'aperçoit véritablement que Stieler était Stieler. Mais qu'en fait, il n'était pas Stieler puisqu'il ne voulait pas être ce qu'on disait qu'il était de lui. Et que c'est le problème de chacun, qu'on n'est jamais véritablement ce que les autres voudraient que l'on soit.
On dit toujours Stieler, je ne suis pas Stieler, alors que le titre est Stieler en français. Et vous, comment avez-vous lu Stieler, je ne suis pas Stieler, Philippe Velnitz?
Alors Stieler est le premier grand roman de Max Frisch, paru en 1954. Ce texte raconte l'histoire du dénommé Anatole Stieler, sculpteur qui a disparu et qui réapparaît en se nommant White et se fait arrêter pour une insulte à douanier et usurpation d'identité. Et tout le livre consiste, dans sa première partie qui comprend 7 cahiers, à prouver que White est identique à Stieler. Ce à quoi on arrive à la fin de la première partie. Tous les cahiers, les 7 cahiers que Stieler White, si je puis dire, note en prison, visant à prouver justement qu'il n'est pas Stieler. Le roman commence donc par la phrase suivante, « Je ne suis pas Stieler » et se continue par la phrase « Je ne suis pas leur Stieler ». Mais ce qui est assez intéressant dans la réception de Stieler, c'est qu'à l'époque de Stieler, les Suisses ont vu une critique de la Suisse dans ce texte, alors que les Allemands, eux, voyaient enfin un auteur de langue allemande, pour ne pas dire allemand, parler de thèmes existentiels qui leur semblaient ô combien plus importants que des thèmes politiques.
Thank you.
pourquoi voyageons-nous? Pour rencontrer des êtres qui ne s'imaginent pas nous connaître une fois pour toutes. Pour apprendre encore une fois ce qui dans cette vie nous est possible. C'est de toute manière bien peu de choses. Que notre pays est petit. Notre désir d'espace, notre nostalgie des grands horizons ras, des nuages au grand large, notre nostalgie de la mer qui nous relie à toutes les choses de cette terre, notre mal de l'étranger.
En avril 1974, l'auteur va de Berlin à New York, appelé par son éditeur américain.
Le journal intime, il utilise les notes, il utilise également le reportage de voyage notamment. Et donc, il y a cette diversité à l'intérieur du récit qui fait que on part d'ailleurs dans de multiples directions. Je crois qu'il y a une volonté de Max Frisch d'égarer très souvent son lecteur. Et tout ça fait que on a l'impression d'être projeté dans divers espaces géographiques et espaces psychologiques également, comme si en tant que lecteur donc on était amené à s'éclater soi-même et c'est une technique évidemment un peu déroutante, ce qui explique que peut-être Max Frisch n'a pas eu tout à fait le succès qu'il aurait pu avoir.
Philippe Ram.
Max Frisch parle de l'architecture comme d'un métier dans lequel il pensait trouver une réalité physique comme ça, qu'il n'a pas trouvé finalement. C'est vrai que le rapport aux matériaux, le rapport à la pesanteur, le rapport à la fabrication, il n'existe pas vraiment pour un architecte. C'est-à-dire il dessine, il a un rapport avec une planche à dessin, maintenant avec l'ordinateur. Donc il est quand même déconnecté de cette réalité physique des choses. Comme Max Frisch dit qu'il n'est pas tombé dans le monde concret qu'il pensait trouver, c'est vrai que c'est le cas. On est beaucoup plus confronté à des problèmes d'encre dans les rotrings, dans les stylos comme ça, l'encre qui coule, des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus légères. Et en même temps, toute cette déconnexion par rapport au réel, c'est vrai, influence l'architecture, c'est-à-dire cette vision globale des choses, aérienne comme ça, comme si on était à des kilomètres dans le ciel et qu'on regardait le monde comme un dessin. C'est également ce qui a été fait dans les années 50 par rapport aux années 40. Et on est arrivé dans des visions beaucoup plus globales, beaucoup plus générales, des programmes d'urbanisation beaucoup plus vus d'oiseau, comme ça, beaucoup plus élevés, dans le sens où on formule des plans, on dispose des masses sur le territoire et d'une certaine manière on prend plus en compte le territoire. Et on formule le monde tel qu'il devrait être à la mesure de l'homme. Max Frisch apparemment a activement participé, on le voit devant des maquettes, c'est des blocs comme ça, des gratte-ciel, des points dominants. Et Max Frisch apparemment a essayé de promouvoir cette architecture-là et a lui-même essayé d'habiter dans ce type d'architecture, puisqu'il a habité dans un gratte-ciel de Zurich qui était une chose très, très particulière à Zurich. Hein. Et apparemment, ça lui a pas convenu. Il le dit quelque part, comme tout le programme social qui était prôné par les architectes dans ce type d'architecture-là n'a pas abouti. C'est-à-dire que les hommes se comportent différemment, ne se comportent pas tel que les architectes aimeraient qu'ils se comportent.
Sa spécialité, statique pour architecte. Dans la pratique, les calculs de statique sont de toute façon confiés à un bureau d'études. Il suffit que l'architecte ait pour ainsi dire le sens de la statique. Il montre des diapositives, des fissures, dans le béton, son surnom, la fissure, Lionel Richard et Richard Dindo.
En ce qui concerne le journal, c'est bien plus caractéristique, bien sûr, parce que, à une certaine période de sa vie, il ne va pratiquement plus utiliser que le journal. Il va publier ses propres journaux, Memoir Taug, par exemple, Bon, bien que le titre ne soit pas véritablement celui de journal, c'est le journal. Donc, à chaque fois, ce journal lui permet aussi des retours en arrière, et puis lui permet de mettre en scène des personnages. Donc, tout est un peu mêlé, parce que finalement, toute l'œuvre est autobiographique, mais pendant toute la première partie, elle est construite vraiment sous un angle littéraire, que ce soit le roman, que ce soit le théâtre. Et après, il y a une littérature beaucoup plus intime, mais où on retrouve strictement les mêmes préoccupations. Mmh. Parce que finalement, bon, c'est l'être, c'est le mal-être qui préoccupe Max Frisch essentiellement.
Mmh. Il y a un nœud assez vertigineux qui est l'inceste.
Oui, dans Homo Faber. Oui, dans Homo Faber. Mais justement, le problème de Homo Faber, c'est un peu que c'est l'inverse de Je ne suis pas Stiller. C'est que Je ne suis pas Stiller, c'est quelqu'un qui va essayer de se libérer de sa propre aliénation en vivant une rupture avec toute sa vie, tout son présent, et en se construisant une autre vie. Tandis que Homo Faber, Walter Faber, c'est un personnage qui, lui, est au contraire complètement ancré dans le pratique. Tout ce qui est pratique, c'est-à-dire la statistique, etc., c'est un technicien. Et au fond, il est piégé par l'émotion. Il est incapable de réagir devant l'émotion. Et c'est cet aspect-là, c'est que finalement, le technicien, il est assez représentatif du technicien dans notre civilisation moderne, qui fait qu'il ne peut pas du tout comprendre l'histoire, tout ce qui est justement formation de la chair de l'individu proprement dit, avec les mythes notamment, à travers ce personnage de Anna, réfugiée allemande à laquelle il a fait un enfant qu'il n'a pas reconnu puisqu'elle s'est mariée avec son meilleur ami, Joachim, mais et qui est mort, et c'est après justement que l'inceste va survenir dans la mesure où c'est la jeune fille, Lisbeth, qui n'a pas reconnu. Bon, c'est au fond la séduction opérée par cette jeune fille rousse qu'il voit passer dans la rue d'abord.
Une après-midi longue et légère, Lynn va avoir 31 ans. Sa voix, quand il ne l'entend pas, lui est plus présente que son visage quand il ne le voit pas. Je voudrais pouvoir raconter sans rien inventer. Pourquoi justement ce week-end? Sait-il de quoi il parle à l'instant? Lynn ne connaîtra pas son vice. Le temps manque pour cela. Il faudrait un long mariage pour que ça devienne apparent. Il n'a jamais été dit « I love you ». Lynn ne deviendra pas le nom d'une culpabilité.
Dans le cas de Max Frisch, dans le rapport qu'il a aux femmes, et qui est très beau et qui est vraiment beaucoup observé dans tous ses livres, ce qui vous a intéressé, c'est peut-être aussi le... Enfin, j'ai cru comprendre que derrière un visage de femme, il y en a toujours un autre. Et c'est notamment le cas de ce voyage qu'il fait avec Lynn, cette jeune femme rousse. Il y en a une autre qui se cache derrière Lynn.
Oui, si vous voulez, la description de l'écrivain, comme d'ailleurs aussi sa mémoire, et le choix qu'il fait dans sa mémoire, de ce qu'il veut dire, de ce qu'il ne veut pas dire, il est éminemment subjectif. Et les femmes qu'il décrit, évidemment, ce ne sont pas les femmes telles quelles. Ce n'est que l'image qu'il a d'elles. Et d'ailleurs, je l'oppose la mémoire des femmes à la mémoire de l'écrivain. Mm. Toutes les femmes disent, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Hein, il se trompe.
Et toutes les...
C'est autrement, peut-être elle-même se trompe. Et la vérité est encore ailleurs. Parce que la mémoire est sélective, elle est subjective. Elle est, pour moi, la mémoire est aussi objet d'émotion, mais aussi objet d'art, objet de représentation, objet de récit. Vous voyez, c'est d'abord de l'ordre de la subjectivité de l'artiste. Mm.
Et
de chaque personne, d'ailleurs.
Elles lui disent toutes, je ne suis pas un matériau littéraire.
Oui, naturellement, elles refusent d'être utilisées comme matériel de littérature.
Dans son livre, l'auteur cite un poème de la poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann, morte à Rome 6 mois plus tôt, et avec qui il avait vécu 4 ans.
Ces jours-là, je me lève avec les bouleaux et je peigne de mon front la chevelure de blé devant un miroir de glace. Ces jours-là, je ne sens aucune douleur de pouvoir oublier et de devoir me souvenir. Le bon Dieu de Manhattan. J'avais quelque chose à faire à la radio de Hambourg et j'écoutais l'enregistrement de la pièce radiophonique. Puis j'écrivis une lettre à la jeune poétesse que je ne connaissais pas personnellement, que c'était bien et important que l'autre côté, la femme, s'exprime. Je voulais dire, nous avons besoin de la représentation de l'homme par la femme, de la représentation de la femme par elle-même. Sa réponse me sidéra. Elle allait à Paris et passerait par Zurich, mais ne disposait que de 4 ou 5 jours. Que voulait-elle dire ? Finalement, elle ne vint pas. Plus tard, ayant appris par un journal que j'étais à Paris, elle découvrit où je logeais, hôtel du Louvre. Elle vint pour voir une représentation de ma pièce au Théâtre des Nations en tenue de soirée. J'étais ravi lorsque nous bûmes un Pernod au café près du théâtre et je lui dis « Vous n'avez pas besoin de voir ça ». Elle n'entendit pas, occupée qu'elle était de son sac et troublée parce qu'elle avait égaré quelque chose. Quand ce fut l'heure, je dis une seconde fois « Ingeborg Bachmann ». Vous n'avez pas besoin de voir ça. Au lieu d'aller au théâtre, nous allâmes dîner. Je ne savais rien d'elle, pas même par où y dire.
Vous pourriez faire revivre pour nous certaines images de ce film, de Lindo, qui sont en fait celles de Frisch. Frisch filmant une femme, Ingeborg Bachmann.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de films, je crois, d'Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann était sa femme, écrivain elle aussi, et curieusement, ayant sensiblement les mêmes problèmes. Le roman Malina est un problème aussi de la difficulté de l'intimité entre l'homme et la femme. Et on sent bien cette angoisse d'Ingeborg Bachmann. Il est très curieux quand même que Max Frisch l'ait filmé de manière floue, plutôt errante. Ou dans la fumée de sa cigarette à la table quand elle prend son café. Peut-être qu'il y a d'autres images et que Ricciardino a privilégié celle-ci, parce que évidemment il a peut-être voulu suggérer que Ingeborg Bachmann était tellement déjà prisonnière de l'atmosphère dans laquelle elle se trouvait, puisque peut-être qu'elle prenait des barbituriques, et puis surtout qu'à la fin, elle va mourir dans les flammes, étant donné que, vraisemblablement, l'angle de chevet, l'ampoule va enflammer toute sa literie. Ou alors, on suppose aussi des mégots de cigarettes. Bon, c'est l'un ou l'autre, on ne sait pas trop. Il y a encore un mystère sur cette mort d'Ingeborg Bachmann. Certains disent même que peut-être ce serait un suicide. En tout cas, c'est l'expression d'un malaise.
2 ans plus tard, Ingeborg Bachmann et l'auteur se sont séparés. Quelques années plus tard encore, Ingeborg Bachmann, filmée ici par la télévision allemande, habite Via Bocca di Lione, à Rome, où elle écrit des nouvelles et son premier roman, Malina.
On lui demande, l'homme dans vos romans apparaît comme un malheur incontournable et naturel de la femme. Il ne s'agit sûrement pas de maladie entre Malina et lui, bien entendu. Mais les hommes sont tous malades, bien sûr. Vous ne le savez pas, demande-t-elle.
Alle.
Et c'est curieux, c'est filmé de la part de Max Frisch comme avec une distance telle que ça apparaît comme l'expression d'un malaise.
Exactement comme son écriture, là, il est arrivé exactement au même, à la même mesure de distance. Oui, oui. Mais oui. Alors, si je vous entends bien, Malina serait peut-être la sœur de Stiller.
En tout cas, c'est un roman, ils ne se connaissaient pas au moment où Max Frisch a publié « Je ne suis pas Stiller ». Peut-être que Ingeborg Bachmann avait lu Max Frisch, mais bon, je doute quand même de ça. Et Malina présente des similitudes avec « Je ne suis pas Stiller ».
Elle l'avait lu, puisque c'est elle qui l'appelle lorsqu'il y a une de ses pièces qui est jouée, et elle veut le rencontrer.
Et oui, mais est-ce qu'elle avait lu vraiment « Je ne suis pas Stiller » ou alors est-ce qu'elle connaissait son théâtre?
Oui, Stiller a quand même eu un gros succès.
Oui, a eu un gros succès, oui. Et elle était jeune à l'époque, oui. Ingeborg Bachmann. Oui. Mais enfin bon...
Ils ont vécu à Rome pendant 4 ans.
Voilà, ils ont vécu à Rome pendant 4 ans.
Lynn a envie de courir maintenant. Lui reste là. Lynn continue de courir très loin. Sa silhouette est en ce moment à peine reconnaissable. Là où elle court, la mer scintille sous le soleil. Et aveugle. Elle revient en courant, semble-t-il. On la distingue plus nettement. Elle fait des crochets comme dans un slalom, le long des langues d'écume. Et une fois, elle agite les bras, par plaisir. Je voudrais pouvoir décrire ce week-end sans rien inventer. Seulement cette présence ténue. Avec Brecht sur le chantier. De tous ceux à qui j'ai fait visiter un chantier, Brecht est de loin le plus reconnaissant, le plus curieux, un virtuose des questions. Nous nous promenons pendant plus de 2 heures, montons, descendons, rentrons, sortons, faisons le tour. Je me souviens de ma première rencontre avec Brecht en novembre 1947, peu après son arrivée en Europe, dans le petit appartement plein de livres de Kurt Hirschfeld, directeur du théâtre de Zurich, qui avait assuré la création en langue allemande de 3 pièces de Brecht. J'avais 38 ans, j'étais architecte, je lui parlais de l'Allemagne, telle que je la connaissais par mes voyages, de Berlin détruit. Venez me voir bientôt pour m'en dire plus. Peut-être cela vous arrivera à vous aussi un jour, disait-il sur le quai de la gare, que quelqu'un vous parle de votre patrie et que vous l'écoutiez comme s'il vous parlait d'un pays lointain en Afrique.
Philippe Velnitz.
Cette rencontre s'est faite pendant l'hiver 1947-1948 chez Kurt Hirschfeld, qui était, comme on dit en allemand, der Intendant, c'est-à-dire, disons plutôt en français, plutôt qu'intendant, le directeur artistique du Zürcher Schauspielhaus. Et Max Frisch était bien sûr très très impressionné de cette rencontre. Mais il en dit ceci, il dit « Je pris peur, Brecht, si l'on s'embarquait avec lui, remodelait n'importe qui ». Et donc les discussions furent plutôt des discussions, notamment d'ailleurs à propos de la piscine, puisque Brecht aimait venir sur le chantier de la piscine pour discuter d'architecture contemporaine avec Max Frisch. Et il y avait là toute une discussion autour de la page blanche ou l'ouvrage à accomplir avec Brecht, qui a beaucoup appris à Max Frisch. Mais Max Frisch en tirera la conclusion des discussions avec Brecht qu'on est battu mais pas convaincu. Et d'autre part, il restait très impressionné par Bertolt Brecht puisqu'il devait dire plus tard dans son journal 1966-71 que la grandeur de Brecht agissait après coup. Donc, quelque part, autant Max Frisch que Friedrich Dürrenmatt se positionnent de toute évidence par rapport à Bertolt Brecht et son théâtre épique, didactique, puisque, par exemple, Max Frisch donne le sous-titre à Biedermann und die Brandstifter, Monsieur Bonhomme et les incendiaires, une pièce didactique sans doctrine.
Max Frisch en a dit qu'il avait écrit son premier livre en 1934, Jürgen Reinhardt, c'est son premier roman qui va devenir par la suite J'adore ce qui me brûle en 1943. Mais en fait, il avait voyagé puisque il était en fait journaliste. Et donc, il a voyagé dans l'Allemagne nazie. Et il a publié des reportages. On a retrouvé ces reportages et on a dit justement que bien la distance que pouvait mettre Max Frisch à l'égard de l'Allemagne nazie n'était pas très grande. Il n'y avait pratiquement aucune critique à l'égard de ce qu'il avait pu voir, ce qu'il avait pu rencontrer en Allemagne nazie. Donc, à propos de l'antisémitisme, par exemple, eh bien, il y avait assez peu de critiques, finalement. Pour ne pas dire peut-être aucune critique du tout. Mais Max Frisch, en fait, n'a jamais vraiment nié qu'il était à l'époque complètement éloigné de la politique et que, au fond, il était à peu près comme tous les Suisses, bourgeois, intellectuel d'alors, et il ne voyait pas tellement de danger dans l'Allemagne nazie. Ce qu'on a aujourd'hui comme révélation sur la Suisse, eh bien, ça perce un petit peu, d'ailleurs, dans certaines critiques qu'il a pu faire ensuite dans ses romans, par exemple à propos des réfugiés, la manière dont, par exemple, dans Homo Faber, le personnage de Anna est convoqué, est censé attendre des papiers pour pouvoir rester en Suisse, alors qu'elle a déjà ses papiers. Alors, il y a des allusions comme ça constantes, évidemment, à la Suisse à l'époque du nazisme. Dans son Dienstbüchlein, dans son livret de service qui a été publié donc assez tardivement, dans les années 70, je crois, il dit de la même manière, pendant 6 jours, les Suisses travaillent pour l'Allemagne et le dimanche, ils prient pour les Alliés.
C'est dur, hein.
Oui, mais justement, c'est toute la distance qui est mise par Max Frisch à l'égard d'un passé. Est-ce que c'est un retournement? C'est vrai qu'il a publié, en 1934, il a publié en 1937, il a publié en 1943. Mais enfin, la situation de la Suisse n'est pas celle de l'Allemagne, donc on ne peut pas assimiler quand même quelqu'un comme Max Frisch aux écrivains allemands restés en Allemagne qui publiaient sous le Troisième Reich. Il a mis un certain temps à prendre conscience de l'univers social et politique dans lequel il vivait.
Quelques mois avant le voyage à Montauk, l'auteur reçoit le prix littéraire de la ville de Zurich et prononce un discours sur la patrie au théâtre de la ville.
Eine Ehrung aus der Heimat weckt vor allem die Frage, was eigentlich unter Heimat zu verstehen ist. Laut Duden, Heimat, die, plural ungebräuchlich, wo jemand zu Hause ist, Land, Landesteil oder Ort, in dem man, Klammer, geboren und, Klammer zu,
être honoré par sa patrie éveille tout d'abord la question de savoir ce qu'il faut entendre par patrie. Selon le dictionnaire, la patrie, là où l'on est né, où l'on a grandi, où l'on se sent en sûreté, terme utilisé pour exprimer ou éveiller une atmosphère sentimentale.
Alors, il y a deux textes dans la dramaturgie qui sont assez étonnants, assez atypiques par rapport aux journaux ou par rapport à Montauk. C'est d'une part Andorra et d'autre part le Conte d'Orlande.
Oui, le premier, mais Andorra, qui n'a rien à voir avec Andorre, est une dénonciation du racisme et de l'antisémitisme, enfin de l'antisémitisme de façon nette. L'autre, évidemment, mais ce qui intéresse Frisch, finalement, c'est le fonctionnement de la psyché, c'est le fonctionnement intérieur dans tous ses romans aussi. Donc, finalement, c'est vrai que le passage à l'acte peut se manifester, mais tout simplement parce que, on a tous des instincts d'agression au fond de nous-mêmes qui font qu'il suffit d'avoir certaines circonstances dans lesquelles on se trouve pour que ces instincts se manifestent. Mmh. Donc, à ce moment-là, le crime peut se manifester.
Mmh. Alors, on peut rappeler l'intrigue en deux mots, c'est un village.
Oui, oui.
Il y a un jeune homme qu'on dit être juif, mais on n'est pas sûr. Et il aurait donc un père adoptif et on apprend finalement que c'est vraiment son père et que donc il n'est pas juif et que tout le monde s'est trompé sur ce judaïsme.
Voilà, voilà.
Et notamment une sorte de devin qui est venu reconnaître le judaïsme de ce personnage à la façon dont il portait ses chaussures. C'est bien ça, c'est-à-dire que les gens sont drapés,
oui.
On ne voit pas leur visage et on voit seulement leurs pieds. Ce qui quand même extrêmement ambiguë comme reconnaissance d'une entité religieuse, non enfin...
Oui, mais en fait, est-ce que c'est une entité religieuse? Par là, justement, évidemment, il retrouve l'antisémitisme, mais je crois que c'est tout simplement symbolique. Hein. Donc, Frisch, il joue essentiellement sur des symboles. Les instincts peuvent se manifester, bien que, justement... On n'est pas un personnage qui soit défini comme juif au départ, clairement. Hein, donc, malgré tout, il va polariser sur lui absolument toutes les réactions.
Faire part d'une autre rencontre de Max Frisch. C'est un monsieur qui s'appelle Peter André Bloch,
oui,
qui voulait le rencontrer. Connais. Vous connaissez?
Oui.
Eh bien, regardez, Lionel oui. Richard.
D'abord un rendez-vous manqué. Nous nous étions annoncés pour un vendredi après-midi et Max Frisch avait oublié. Il faisait ses courses à Locarno. Que faire? L'attendre dans sa petite loggia, à la grande table de granit, dans son magnifique jardin?
Un an plus tard, 1973, lors d'une conversation à la table de pierre.
Sa femme de ménage nous le conseilla. Il allait certainement l'appeler, comme d'habitude, pour savoir s'il y avait du courrier, si quelqu'un avait téléphoné. En effet, après une demi-heure, M. Frisch a appelé. Il avait oublié, il s'en excuse. Revenez demain vers 11h, vous allez déjeuner ensemble. Elle nous conseilla d'aller voir Alfred Adner, Anders ou Goloman, qui vivaient tous deux dans la même petite commune du Tessin.
Il faudrait décrire la table de pierre, la maison à Berzona. Nous venons de Rome. Toute ma vie, j'ai été locataire ou sous-locataire. J'aimerais maintenant avoir une maison avec toi. Je me charge de veiller à ce qu'elle soit transformée et agrandie, ainsi que de négocier le prix. Les travaux, suivis par le jeune architecte avec soin et plaisir, durent toute une année. Tu es heureuse. La maison est aussi ton œuvre.
En effet, nous sommes rendus chez Anders. Nous avons sonné à sa porte, il ouvrit lui-même. Vous venez de chez Frisch ? C'est toujours la même histoire. Il n'est pas là et sa femme de ménage nous envoie ses gens. Eh bien, que faire? Vous buvez quelque chose? Quels sont vos problèmes? Nous les lui expliquons, installons notre appareil pour enregistrer notre entretien, au cas où il aboutirait à quelque chose. C'est ainsi qu'a eu lieu mon unique rencontre avec ce grand romancier qui vivait depuis plusieurs années en Suisse et ayant publié Zanzibar ou La troisième et dernière raison, Les cerises de la liberté et La rouge, et qui nous expliquait en 1h30 les lois et les possibilités de ce qu'on appelle aujourd'hui l'imparfait épique. Le lendemain, nous avons pris l'apéritif chez Frisch, de 11 à 16 heures, le repas commun ayant été oublié. Je ne mange pas à midi. Vous buvez encore un whisky ? Mais la discussion devint vite remarquablement dense. Rich s'étonnait de notre naïveté de prendre la parole de ces personnages au mot. Je m'arrête là ? Oui, mais alors voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Peut-être qu'il était distrait, Frisch. Oui, il se méfiait aussi du destin. Et dans Homo Faber, il y a tout ce problème aussi du destin, de la fatalité. C'est-à-dire, finalement, il faut accepter que les choses arrivent et qu'on ne puisse pas les prévoir. Et donc, c'est peut-être cette surprise aussi qu'il attendait constamment. Quand il était architecte, il dessinait tout, raconte-t-il avec précision. Mais finalement, il s'attendait toujours... à ce que l'un des ouvriers lui dise « Voilà, peut-être que ce serait mieux de cette manière-là ou vous n'avez pas pensé à cela. » Par exemple, il parle d'un escalier et il dit « Bon, mon escalier fonctionnait sur le dessin, mais en réalité, en arrivant à la construction, eh bien, si on l'avait vraiment respecté, ce dessin, il aurait manqué une marche. » Donc le maçon lui a montré qu'il manquait une marche en réalité. Donc c'est un apprentissage constant et en même temps une surprise des événements qu'on n'arrive pas à contrôler.
Par rapport au réel ?
Par rapport au réel.
À la fin de sa vie, il a repris son thé et son papier d'architecte, comme oui. S'il écrivait, juste comme ça.
Oui, mais peut-être justement que c'était une résignation à ce qu'il était devenu, parce que je crois que Max Frisch aussi a eu le courage de dire à un certain moment, eh bien, je ne peux plus écrire et je n'écris plus. C'est vrai qu'il a fait des discours, Il est intervenu politiquement, il a fait des... Bon, il... Mais...
La question « Pourquoi j'écris ?» ne s'est pas posée quand j'ai commencé à écrire. Je veux dire qu'au début, il y a l'instinct du jeu. S'ajoute à cela, très tôt, l'expérience que tout ce qui est vivant meurt. Le besoin par conséquent de suspendre par l'art l'écoulement du temps. Par exemple, de représenter une personne qu'on aime ou un endroit pour qu'il soit là pour toujours.
Je vous cite encore Richard Dindo dans cet article. En tant que lecteur, j'étais dans la position de celui qui, depuis toujours, voudrait savoir, c'est-à-dire voir, les paysages de la vie de l'auteur, les images de ses romans, les vraies personnes qui se cachent derrière ces personnages. Et voilà qu'il fait lui-même le premier pas en écrivant dans mon talk les phrases que j'avais si longtemps imaginées et attendues. C'est-à-dire, la fiancée juive de Berlin, au temps de Hitler, ne s'appelle pas Hannah, mais Kate, et elle ne se ressemble pas du tout. La jeune femme dans ma vie... Et la figure dans le roman qu'il a écrit, que s'est-il réellement passé?
Si vous voulez, il a écrit le livre dont j'avais moi-même rêvé. C'est-à-dire il a donné les réponses aux questions que je m'étais posées pendant des années sur lui, sur son personnage, sur sa vie, sur son passé, sur sa littérature. Et je vous dis, il a écrit le scénario de mon rêve.
Richard Dindo, c'est plutôt bien, non, de parler comme ça, à la radio, par téléphone, sans se voir, de Max Frisch et du cinéma?
Pourquoi c'est bien?
Parce qu'on ne se voit pas.
Oui.
Et qu'on parle de ces images, qui sont quand même difficiles à voir, finalement, même
si
elles sont filmées.
Si j'étais en face de vous, je dirais que ça donne la même chose.
Questionnaire. Question 3. Si les mains, les yeux, les lèvres d'une femme expriment l'émoi, le désir, etc., parce que vous la touchez, ramenez-vous la chose à vous, personnellement. Question 12. Qui a inventé le complexe de castration? Question 16. Aimeriez-vous être votre femme? Question 25. Pourquoi faut-il que nous ne nous comprenions pas les femmes? Question. Êtes-vous sûr de jouer assez souvent au ping-pong?
Nous n'avions plus qu'à trouver l'endroit où nous séparer et à prendre garde à la circulation. Nous nous sommes pris par la main pour traverser l'avenue et nous avons couru. First Avenue, 46th Street. C'était l'endroit, manifestement, nous avons dit « bye » sans nous embrasser, puis une seconde fois la main levée « hi ». Après avoir fait quelques pas, je suis revenu à l'angle de la rue, je l'ai vue, sa silhouette. Elle ne s'est pas retournée, elle s'est arrêtée. Et elle a attendu un bon moment avant de pouvoir traverser.
Une vie, une œuvre, Max Frisch, J'adore ce qui me brûle, une émission proposée par Isabelle Rabineau. Lionel Richard, professeur, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la littérature et à la culture allemande. Philippe Ramm, architecte à Lausanne. Philippe Velnitz, professeur à l'ENA, vient de diriger un recueil consacré à Max Frisch, La Suisse en question, édité par les presses universitaires de Strasbourg et le Centre culturel suisse. Richard Dindo, cinéaste, documentariste, est l'auteur du très beau film Max Frisch, Journal 1-3, édité par la 7, grand format en 1992, Richard Dindo et Saga Productions 1980, dont nous avons rendu compte avec son aimable autorisation. Les ouvrages de Max Frisch sont édités aux éditions Gallimard, Stiller, aux éditions Fayard. Pierre Caumont, Dimitri Gronoff, Jean-Louis Boissonnade. Réalisation, Ghislaine David.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et samedi prochain, retour à la normale, Une vie, une œuvre fait sa rentrée.